Chapitre 8 Dents de sabre. Je garde un vif souvenir de mon premier hiver après ma séparation d'avec ma mère. Durant mes rêves, je me revois assis, grelottant. Oreille pendante et moi, sommes blottis l'un contre l'autre, bras et jambes entrelacés, claquant des dents et la face bleuie. Le froid devenait particulièrement mordant vers le matin. Durant ces heures glaciales qui précédaient le jour, nous ne dormions guère et, tout transis, nous attendions le lever du jour afin de nous réchauffer aux rayons du soleil. Quand nous sortions de notre caverne, le sol craquait sous nos pas. Un matin, nous découvrîmes que la surface calme de l'eau dans la petite crique où nous allions boire était gelée. Quel événement dans la tribu! Osamoa, le vétéran de la horde, n'avait jamais vu pareille chose. Je me souviens du regard inquiet et désolé dont il examinait la glace. Nos yeux reflétaient toujours une douloureuse tristesse lorsqu'un fait nous échappait ou que nous ressentions un désir vague qui nous était impossible d'exprimer. Œil rouge, lorsqu'il considéra la glace, prit cet air sombre et consterné, puis il regarda au-delà de la rivière, vers le nord-est, comme si, de quelque façon, il rattachait les hommes du feu avec cette dernière découverte. Mais nous ne vîmes de glace que ce matin-là, et ce fut l'hiver le plus rigoureux que nous eûmes à subir. J'ai souvent songé qu'il était avant-coureur des innombrables hivers à venir, lorsque les énormes glaçons venus du nord se répandirent sur la surface du globe. Nous n'assistâmes pas à ce phénomène. Bien des générations ont dû se succéder avant que les descendants de la Horde dussent émigrer au sud ou s'adapter aux nouvelles conditions de température. Nous menions une vie insouciante et livrée au pur hasard. Nous ne formions guère de projets et il était rare que nous les missions à exécution. Nous mangions quand nous avions faim, buvions quand nous avions soif, évitions nos ennemis carnivores, nous nous abritions dans nos cavernes à la tombée de la nuit et le reste de notre existence se passait à jouer. Nous étions très curieux, faciles à divertir. Seule la colère ou le danger nous rendait graves et sérieux, mais dès que la menace se dissipait, notre gaieté reprenait le dessus. Illogique, sans aucune suite dans les idées, nous n'envisagions jamais les conséquences de nos actes. Les hommes du feu se montraient bien supérieurs à nous, car ils possédaient toutes ces qualités qui nous faisaient entièrement défaut. Toutefois, en certaines circonstances, surtout dans le domaine émotionnel, nous étions capables d'une grande constance. La fidélité des couples monogames auxquels j'ai déjà fait allusion peut s'expliquer par l'habitude, mais il en saurait être de même pour mon affection envers la rapide et pour la haine immortelle entre moi et Œil Rouge. Mais ce qui m'afflige particulièrement lorsque je jette un regard dans ce passé lointain, c'est notre inconséquence et notre stupidité. Une fois, je tombais sur une calebasse brisée et pleine d'eau de pluie. Je goûtais ce breuvage et le trouvais doux. Je me rendis même au fleuve avec cette coupe en main et, l'ayant remplie, j'en bus la moitié et lançai le reste sur oreille pendante. Ensuite, j'envoyai l'objet au loin. Jamais il n'entra dans mon cerveau de remplir d'eau cette calebasse et de la porter dans ma caverne. Pourtant, je souffrais souvent de soif la nuit, surtout après avoir mangé des oignons et du cresson, et dans l'obscurité, personne n'osait quitter la caverne pour aller boire. En d'autres occasions, je trouvais une calebasse sèche à l'intérieur de laquelle les graines produisaient du bruit. Je m'amusais beaucoup à la secouer, mais cette calebasse ne représentait pour moi qu'un objet. Pourtant, ce fut peu de temps après que l'usage des calebasses comme récipient devint un usage général dans la Horde. Je n'en fus point l'inventeur. Cet honneur revient au vieil Osamoa, et je dois ajouter, pour être juste, que la nécessité de son grand âge fut la cause de cette innovation. Quoi qu'il en soit, le premier homme de la Horde qui employa la calebasse fut Osamoa. dans la caverne de son fils, le chauve, qui lui permettait d'en récupérer un coin, il gardait une provision d'eau. L'esprit d'imitation était très accentué dans la horde. À force de voir au Samoal remplir sa calebasse au bord du fleuve et la porter avec précaution à sa caverne, bientôt, l'un après l'autre, tous nous procurâmes une calebasse et l'employâmes de façon semblable, si bien que l'usage se généralisa parmi nous de faire provision d'eau. S'il arrivait au vieil Osamoal de tomber malade et de ne pouvoir quitter la caverne, le chauve confiait cette tâche à longues lèvres son fils. Osamoal, de nouveau rétabli, longues lèvres continuait à lui porter son eau. Avec le temps, à de rares exceptions, les hommes laissèrent cette corvée aux femmes et aux aînés des enfants. Oreille pendante et moi restions indépendants. Nous ne portions d'eau que pour nos besoins personnels, et souvent nous nous moquions des autres gamins lorsque, appelés par leurs parents, ils devaient quitter le jeu pour aller remplir les gourdes. Le progrès ne s'installait que très lentement parmi nous. Nous passions notre existence à jouer à la manière des enfants. Les adultes eux-mêmes se divertissaient à la longueur de journée, mais nos ébats différaient totalement de ceux des animaux. Nous faisions des découvertes grâce à notre curiosité et à notre vivacité d'esprit naturel. Pendant le temps que je vécus au sein de la horde, la plus importante des améliorations apportées à notre bien-être fut l'usage des calebasses comme récipients. Au début, nous n'y conservions que de l'eau, à l'instar du vieil Osamoal. Lorsqu'un jour, une des femmes, je ne me rappelle plus laquelle, remplit une calebasse de mûres et la rapporta à sa caverne. Bientôt, toutes les femmes suivirent son exemple et transportèrent aussi les baies, les noix et les racines. L'idée, une fois en marche, ne pouvait s'arrêter. Une autre évolution du récipient est due aux femmes. Sans doute, l'une d'elles jugea-t-elle sa calebasse trop petite ou bien oublia-t-elle de l'emporter. Toujours est-il qu'elle raccorda les bords extérieurs de deux larges feuilles en les épinglant au moyen de brindilles et put de la sorte faire une plus ample provision de baies qu'auparavant. Nous n'allâmes pas plus avant dans le mode de transport des vivres. Il ne vint à l'esprit de personne de tresser des brins d'osier pour en confectionner un panier. Souvent, les hommes et les femmes liaient au moyen de solides sarments les bottes de fougères et de branchages qu'ils emportaient dans les cavernes pour dormir dessus. Il est possible qu'au bout de 10 ou 20 générations, on soit arrivé au tressage des paniers qui conduisit inévitablement au tissage des étoffes. Les vêtements suivirent et le fait de cacher notre nudité engendra la pudeur. Voilà comment progressait le monde préhistorique. Mais à cette époque-là, l'humanité en était à ses tout premiers débuts et ne pouvait gagner beaucoup de terrain en une seule génération. Nous ne possédions ni armes, ni feu et notre langage était des plus rudimentaires. L'invention de l'écriture était encore si loin dans l'avenir que je frémis en y songeant. Je fus moi-même sur le point de faire une découverte. Pour nous montrer comment le progrès dépendait alors du plus simple des hasards, laissez-moi vous expliquer comment, sous la gloutonnerie d'oreilles pendantes, j'aurais pu amener parmi nous la domestication du chien, exploit que les hommes du feu n'avaient pas encore réalisé. Je vais donc vous raconter comment la faute d'oreilles pendantes retarda de plusieurs générations notre développement social. À l'ouest de nos cavernes se trouvait un grand marais et au sud s'étendaient des collines basses et rocheuses. Nous ne nous aventurions guère du côté de ces collines pour deux raisons. D'abord parce que nous n'y couvrions point le genre de nourriture qui nous convenait, et ensuite parce qu'elles étaient hantées d'animaux carnassiers. Cependant, Oreille Pendante et moi, nous nous risquâmes un jour jusque-là. Nous ne nous serions jamais autant éloignés si nous avions été occupés à taquiner un tigre, le vieux dent de sable lui-même. De bonne heure, le matin, nous l'avions aperçu dans la forêt, et du haut des branches où nous courions en sûreté, nous fîmes un vacarme infernal qui avertit tous les habitants de la forêt de l'approche du vieux tigre. Ne rencontrant aucun gibier devant lui, il se mit en colère et lança vers nous des rugissements en fouettant l'air de sa queue. Parfois, il s'arrêtait et nous regardait longuement, comme s'il cherchait dans son cerveau quelque stratagème pour nous atteindre. Mais nous nous moquions de lui et le bombardions de brindilles et de tout un bout de branches. Poursuivre ainsi certains fauves constituait un des sports favoris de la horde. Parfois, la moitié de la tribu harcelait dans les arbres un tigre ou un lion rencontré en plein jour. Nous y goûtions une sorte de revanche. En effet, plus d'un membre de la horde, pris à l'improviste, avait disparu dans la panse de ces carnassiers. De telles épreuves, où l'animal se montrait impuissant et honteux, apprenaient aux fauves à respecter les limites de notre territoire. De surcroît, nous savourions follement ce jeu magnifique. Oreille Pendant et moi avions donc pourchassé dans deux sabres sur une distance de 3 km environ dans la forêt. De guerre lasse, le tigre, la queue entre les pattes, s'enfuit comme un chien battu. Nous nous efforçâmes de le poursuivre, mais quand nous atteignîmes la lisière de la forêt, il n'était plus qu'un trait dans le lointain. Je ne sais si c'est la curiosité qui nous guida, toujours est-il qu'après nous être amusés un court instant, mon camarade et moi nous mîmes à courir en terrain découvert jusqu'au pied des collines. Nous n'allâmes pas loin, à une centaine de mètres des arbres. En contournant le coin d'un rocher, où nous avancions avec prudence, car nous ignorions ce qui nous guettait derrière ces masses rocheuses, nous aperçûmes trois petits chiens qui folâtraient au soleil. Profitant de ce qu'ils ne nous voyaient pas, nous les observâmes un long moment. C'étaient des chiens sauvages. Une fente horizontale dans la muraille rocheuse indiquait évidemment l'abri où leur mère les avait laissés et où ils auraient dû rester s'ils eussent été obéissants. Mais la vie qui bouillonnait en eux avait poussé ces chiots à sortir de leur gîte pour s'ébattre au soleil, comme elle nous avait incité, Oreille Pendante et moi, à quitter la forêt. J'ignore de quelle façon leur mère les aurait punis si elle les avait surpris. Mais Oreille Pendante et moi la devançâmes. Mon compagnon me lança un coup d'œil significatif et nous bondîmes en avant. Les petits chiens ne connaissaient pas d'autre refuge que leur caverne, dont nous leur barrions l'entrée. Un d'eux se jeta entre mes jambes, je m'accroupis et l'agrippai, il enfonça ses petites dents aiguës dans mon bras et, saisi par la douleur, je le lâchai. L'instant d'après, il s'était faufilé dans la fissure. Oreille Pendante se démenait avec le second chiot. Il me décocha un regard de mépris, et par une infinie variété de sons, me traita d'idiot et de maladroit. Vexé et désireux de prouver ma valeur, j'employai le troisième petit chien par la queue. Il me donna un coup de croc, mais je l'appréhendais par la peau du cou. Oreille Pendante et moi, nous nous assîmes, et soulevant les petites bêtes à bout de bras, nous les regardâmes en riant. Les chiots grognaient, geignaient, éclapissaient. Soudain, mon compagnon sursauta. Il lui semblait avoir entendu un bruit. Pris de peur, nous nous regardâmes l'un l'autre, conscients du danger qui nous menaçait. Le fait de toucher à leurs petits transforme les animaux en de véritables démons. Or, ces chiots bruyants appartenaient à la race des chiens sauvages, que nous connaissions pour les avoir vus courir en bande à la poursuite des troupeaux de bisons, dévorant les veaux, les bêtes âgées et malades. Plus d'une fois, nous avions dû fuir devant eux. Je me souviens d'avoir vu une femme de la horde pourchassée par eux et attrapée au moment où elle gagnait l'abri de la forêt. Si cette course éperdue ne l'avait épuisée, elle aurait pu se réfugier dans un arbre. Malgré ses efforts pour grimper, elle glissa et tomba. En peu de temps, ils lui réglèrent son compte. Sans lâcher notre prise, nous courûmes vers le bois. Une fois en sécurité dans un arbre, nous levâmes nos chiots en l'air et nous nous reprîmes à rire. Comme vous le voyez, la bonne humeur chez nous ne perdait pas jamais ses droits. Alors, je dus affronter une des tâches les plus ardues. Voulant à toute force emporter nos chiens à la caverne, nous ne pouvions disposer de nos deux mains pour grimper. Nous essayâmes de marcher sur le sol, mais il nous fallut bien vite regagner les arbres pour échapper à une hyène qui nous suivait d'en bas. Une idée lumineuse traversa l'esprit de mon camarade. Il se souvint d'avoir lié des brases de feuillage pour les porter dans notre caverne et les disposer en guise de lit. Brisant quelques fortes lianes, il ficela ensemble les pattes de son chiot, et au moyen d'une autre liane passée à son cou, assujettit le chien sur son dos, ce qui lui laissa les mains, les pieds libres pour grimper. Tout heureux, il se remit en marche sans attendre que j'eusse terminé de ligoter mon chiot. Une autre difficulté surgit bientôt. Le petit chien ne restait pas sur le dos, d'oreilles dents pendantes. Il glissait sur le côté et oscillait par devant. Ses dents n'étaient en point liées, il les enfonça dans le ventre tendre et sans protection du jeune garçon, qui poussa un cri et s'agrippa des deux mains à une grosse branche pour éviter la chute. Le sarment passé autour de son cou se brisa, et le chiot, les pattes toujours ficelées, tomba sur le sol. L'hyène commença aussitôt son repas. Furieux, oreille pendante, lâcha une bordée d'injures sur l'hyène et s'éloigna tout seul dans les arbres. Désireux malgré tout d'emporter mon petit chien à la caverne, j'en rendis le transport plus facile en améliorant l'invention de mon camarade. Non seulement je liais les pattes du chiot, mais je lui fourrai un bâton entre les mâchoires et les ficelai ensuite solidement. Enfin, j'arrivai avec le petit chien au pied de la falaise. Peut-être possédais-je un peu plus de ténacité que le reste de la tribu, sans quoi je n'aurais jamais mené à bonne fin cette difficultueuse entreprise. Tous se moquèrent de moi lorsqu'ils me virent hisser l'animal jusqu'à ma petite caverne, mais je m'en souciais peu. Le succès avait couronné mes efforts et je gardais mon petit chien, un jouet comme il n'en existait point. Il s'apprivoisa rapidement. Lorsqu'en jouant, il me mordait, je lui donnais quelques taloches et il se tenait tranquille pendant un certain temps. Cette gentille bête occupait tous mes instants. C'était quelque chose de nouveau et nous autres de la horde raffolions de la nouveauté. Quand je vis que mon chien refusait de se nourrir de fruits et de légumes, j'attrapai à son intention des oiseaux, des écureuils et de jeunes lapins. À la fois carnivores et végétariens, nous étions adroits à capturer le gibier. Le chien mangeait la viande et prospérait à souhait. Autant que je puis m'en souvenir, je le conservai un peu plus d'une semaine. Un jour que je revenais à la caverne en portant une nichée de faisans récemment éclos, je constatai qu'Oreille Pendante avait tué mon petit chien et commençait à le manger. Je me jetai sur mon camarade et dans l'exiguïté de la grotte, nous luttâmes à coups de dents et d'ongles. Ainsi, le premier essai de domestication du chien se termina par une rixe. Nous nous arrachâmes des poignées de poils, nous nous griffâmes et nous nous mordîmes, chacun s'efforçant de crever les yeux de l'adversaire. Après une courte bouderie, la réconciliation eut lieu et ensemble nous dévorâmes le chien. Cru, bien entendu. Nous n'avions pas encore découvert le feu. Notre évolution vers la cuisson des aliments demeurait emprisonnée dans les rouleaux de parchemin de l'avenir. Chapitre 9. Le tueur. Œil Rouge constituait un élément discordant parmi les membres de la Horde. Il était plus rudimentaire qu'aucun d'entre nous. Cependant, nous étions encore trop primitifs nous-mêmes pour être capables d'une action coopérative en vue de le tuer ou de le chasser. Si grossière que fût notre organisation sociale, il était encore trop grossier pour y vivre. Ses efforts tendaient à détruire la tribu par des actes antisociaux. En réalité, il rétrogradait vers un type plus ancien, et sa place était parmi le peuple des arbres, plutôt que parmi nous, qui étions en train de devenir des hommes. Œil Rouge était un monstre de cruauté, ce qui est beaucoup dire pour l'époque. Il battait ses femmes, non qu'il en posséda plusieurs à la fois, mais il se maria à diverses reprises. Aucune compagne ne pouvait demeurer avec lui, mais il avait raison d'elle par la force. Inutile de vouloir lui résister. Nul n'était assez fort pour lui tenir tête. J'ai souvent des visions de l'heure calme qui précède le crépuscule. Revenant de la crique, du champ de carottes ou du marécage où croissent les buissons chargés de baies charnues, les gens de ma race s'assemblent devant les cavernes dans l'espace découvert. Ils n'osent s'attarder, car la redoutable obscurité approche, livrant le monde au carnage des animaux chasseurs, tandis que les ancêtres de l'homme se cachent en tremblant dans leurs trous. Il nous reste quelques minutes encore avant de grimper à nos cavernes. Las d'avoir joué toute la journée, nous ne menons pas grand bruit. Même les petits, toujours avides de singeries et de rire, jouent tranquillement. La brise de mer s'est apaisée et les ombres s'allongent avec la descente du soleil à son déclin. Soudain, de la caverne d'Œil Rouge, nous arrivent des cris déchirants et un bruit de coups. Il maltraite sa femme. Tout d'abord, un silence terrifié s'abat sur nous. Mais comme les coups et les cris redoublent, dans notre rage impuissante, nous livrons à un caquetage insensé. Il est clair que les hommes s'indignent de la conduite d'Œil Rouge, mais ils ont trop peur de lui. Les coups cessent, les plaintes se taisent, tandis que nous bavardons entre nous et que le triste crépuscule enveloppe la tribu. Nous autres, pour qui tout est d'ordinaire sujet de plaisanterie, ne rions jamais lorsque Œil Rouge bat sa femme. Nous en connaissons trop les suites tragiques. Plus d'un matin, au pied de la falaise, nous avons relevé le corps mutilé de la dernière femme de cette échappée de l'enfer. Une fois morte, il la jetait simplement par l'ouverture de sa caverne. Jamais il ne les enterrait, laissant à la Horde le soin d'emporter les cadavres qui autrement eussent infecté les alentours. D'ordinaire, nous les lancions dans le cours d'eau, en aval de la dernière crique où nous allions boire. Non seulement Œil Rouge tuait ses femmes, mais il n'hésitait pas à commettre des meurtres pour se procurer de nouvelles épouses. Lorsqu'il désirait une femme, il jetait son dévolu sur celle d'un autre et se débarrassait bien vite de son rival. J'ai moi-même assisté à deux de ces assassinats. Tout le monde était au courant de ces agissements, mais personne n'y pouvait rien. En réalité, la Horde ne possédait aucun système de gouvernement. Nous avions simplement certaines habitudes et nous assouvissions notre courroux sur ceux qui les violaient. Ainsi, l'individu qui souillait l'eau à l'endroit où nous buvions était attaqué par tous les témoins de son acte, et celui qui délibérément donnait une fausse alarme était roué de coups d'une brutalité exemplaire. Cependant, Œil Rouge foulait aux pieds toutes nos coutumes, mais il nous inspirait une telle frayeur que nous osions nous entendre collectivement pour lui infliger un châtiment. Au cours du sixième hiver passé dans notre caverne, Oreille pendante et moi, nous aperçûmes que nous grandissions. Au début, nous devions nous contracter pour glisser dans l'ouverture de notre repère. Cela présentait son avantage. L'étroitesse de la fissure avait empêché les adultes de s'emparer de notre caverne. Comme elle était la plus élevée de la falaise, la mieux protégée, et en hiver la plus chaude en raison de ses dimensions trop restreintes, tout le monde l'enviait. Pour vous donner un exemple du développement mental de la race, je vous dirai qu'il eût été extrêmement facile pour ces adultes de nous déloger et d'élargir l'entrée de notre domicile. Mais l'idée ne leur en vint pas. Oreille pendante et moi-même n'y songeâmes que lorsque notre taille croissante nous contraignit à pratiquer cet agrandissement. Nous accomplîmes cette besogne au milieu de l'été, lorsque les jours étaient plus longs et la nourriture plus abondante. Nous travaillions de temps à autre, quand la fantaisie nous en prenait. Tout d'abord, nous détachâmes les morceaux de rochers friables au moyen de nos doigts, au point de nous arracher les ongles, lorsque, incidemment, j'eus l'idée de me servir d'un morceau de bois. Ce rudimentaire outil fonctionnait bien au début, mais un accident se produisit. Un matin, de bonne heure, nous avions détaché de la muraille tout un tas de cailloux que je poussais par-dessus le rebord de l'entrée. L'instant d'après s'éleva un rugissement de colère. Inutile de nous pencher pour savoir qui en était l'auteur. Nous reconnaissions trop bien cette voix. Les déblais étaient tombés sur Œil Rouge. Consternés, nous nous blottîmes au fond de notre caverne. Une minute plus tard, il arrivait à l'entrée, et furieux comme un démon, il nous foudroyait de ses yeux enflammés. Mais il était trop énorme pour passer dans l'ouverture et ne pouvait nous atteindre. Bientôt, il s'en alla. Ce brusque départ nous parut de mauvais augure. D'après ce que nous savions de son caractère, il aurait dû normalement demeurer là pour exhaler sa fureur. Je rampais jusqu'au bord de la falaise et plongeais mon regard en bas. Je le vis qui remontait le rocher tenant un bâton à la main. Avant que j'eusse pu deviner son intention, il se retrouvait devant l'entrée et essayait brutalement de nous atteindre avec son gourdin. Ses coups effrayants auraient pu nous éventrer si nous n'avions pas pris la précaution de nous coller contre les parois latérales de la caverne, hors de sa portée. Mais à force de fourgonner, il parvenait à nous toucher de temps à autre. La pointe du bâton nous lacérait cruellement la chair, arrachant poil et peau. À nos cris de douleur, il répondait par des rugissements de joie et frappait de plus belle. La colère commençait à me monter au nez. À cette époque, j'avais un caractère très irritable et une forte dose de courage. Le courage du rat pris au piège, je dois le reconnaître. Des deux mains, je saisis le bâton d'Œil Rouge. Mais telle était la force de ce monstre que d'une secousse plus vigoureuse, il m'attira dans la crevasse. Allongeant le bras, il me saisit et ses ongles me taillonnèrent au moment où je bondissais en arrière pour gagner la sécurité relative du mur latéral. Il recommença de fourgonner avec son bâton et m'asséna un coup terrible à l'épaule. Oreille pendante ne faisait que trembler de peur et de gémir dès qu'il était frappé. Je cherchais un bâton pour repousser l'ennemi, mais ne trouvais qu'une branche d'un pouce d'épaisseur et d'un pied de long. Je le lançai sur Œil Rouge sans lui faire aucun mal. Puis il se remit à hurler, furieux de ce que j'eusse l'audace de riposter. De nouveau, il frappa. Je ramassai un fragment de roche et de toutes mes forces, je lui jetai en pleine poitrine. Cela m'enhardit. J'étais maintenant aussi engagé que ragé que lui et j'avais perdu toute crainte. J'arrachai de la paroi un morceau de roche pesant 2 ou 3 livres, et de toute ma force je l'enviai sur la figure d'Œil Rouge. Vacillant en arrière, il lâcha aussitôt son bâton et roula presque jusqu'au pied de la falaise. Il était horrible à voir. La face lui ruisselante de sang, il faisait grincer ses crocs comme un sanglier et poussait des grognements. S'étant essuyé les yeux, il m'aperçut et rugit encore plus fort. Son bâton lui ayant échappé des mains, il détacha des morceaux de pierre et me les lança, me fournissant ainsi des armes contre lui. Je lui renvoyai ses projectiles avec usure. Il présentait une cible excellente, tandis qu'il ne m'entrevoyait que rarement, car je prenais la précaution de m'aplatir contre la paroi. Soudain, il disparut de nouveau. Du rebord de la falaise, je le vis descendre. Toute la horde, amassée sur le terrain découvert, observait la scène dans un silence terrifié. Les plus timides gagnèrent l'abri de leur caverne. J'aperçus Haut-Samoil qui fuyait aussi vite que le lui permettaient ses jambes flageolantes. Œil Rouge franchit d'un seul bond les derniers 20 pieds du rocher. Il atterrit tout à coup à côté d'une femme qui s'apprêtait à remonter à sa caverne. Elle hurla de peur, et le bambin de 2 ans accroché à elle lâcha prise et roula au pied d'Œil Rouge. La mère et le monstre s'élancèrent ensemble pour le reprendre, mais ce fut lui qui s'en empara. L'instant d'après, le corps fragile de l'enfant, projeté en l'air, alla s'écraser contre la muraille. La mère courut, le saisit dans ses bras et s'effondra en larmes. Œil Rouge se mit à la recherche de son bâton. Haut-Samoil s'étant trouvé sur son chemin, Œil Rouge étendit son énorme main et saisit le vieillard à la nuque. Je m'attendais à ce qu'il lui tordît le cou. Haut-Samoil, tremblant comme la feuille, se couvrit la tête de ses bras croisés. Œil Rouge le jeta à la face contre terre où le vieillard demeura inerte, pleurant de frayeur à l'approche de la mort. Dans la clairière, j'aperçus le chauve qui se frappait la poitrine, les poils tout hérissés, mais il n'osait faire un pas en avant. Brusquement, par une fantaisie de son esprit versatile, Œil Rouge délaissa Haut-Samoil et alla plus loin pour ramasser son bâton. Revenu à la falaise, il se remit à grimper. Oreille Pendante, qui frissonnait à côté de moi, rentra bien vite dans la caverne. De toute évidence, Œil Rouge avait des intentions meurtrières. En proie à la colère et au désespoir, je conservais néanmoins assez de sang-froid. Courant çà et là, sur la falaise, j'assemblais un tas de pierres à l'entrée de la caverne. Œil Rouge, à quelques mètres au-dessous de nous, se dissimulait derrière une saillie de roche. Comme il l'escaladait, sa tête dépassa, et je lançai un projectile qui manqua son but, mais alla se fracasser contre la falaise. La poussière et les éclats remplirent les yeux de notre ennemi, qui disparut derrière le rocher. Des rires étouffés s'élevèrent parmi les membres de la horde qui jouaient le rôle de spectateur. Enfin, un des leurs osait braver Œil Rouge. Comme leur approbation et leurs acclamations montaient jusqu'à moi, Œil Rouge se tourna vers eux en grinçant des dents et à l'instant même les réduisit au silence. Encouragé par cette preuve de sa puissance, il leva la tête et essaya de m'intimider par des gestes et des grimaces. Il plissa la peau de son front de telle manière qu'il ramena sa chevelure au niveau des sourcils, si bien que chaque cheveu se hérissa en pointe. Cette vision me glaça, mais je réussis à dominer ma frayeur et le menaçai d'une pierre. Il voulut avancer. Je lançai la pierre vers lui, mais elle le manqua. Au coup suivant, le projectile frappa Œil Rouge au cou. En me penchant, je le vis descendre la falaise, s'agrippant d'une main aux saillies de la roche et de l'autre s'étreignant la gorge. Il lâcha son bâton qui roula avec bruit jusqu'au sol. Je ne vis bientôt plus Œil Rouge, mais je l'entendis tousser et suffoquer. À présent, les spectateurs gardaient un silence de mort. Je rampais sur le rebord rocheux et attendis. La toux rauque ayant cessé, œil rouge s'éclaircit la gorge. Un peu plus tard, il se remit à descendre, mais il allait doucement, s'arrêtant à chaque instant pour allonger le cou, le tâter de sa main. En le voyant descendre, la horde entière, prise de panique, s'enfuit vers les bois en poussant des cris et des hurlements sauvages. Le vieil Osamura, le chancelant et clopinant, suivait. Œil rouge ne prêta aucune attention au fuyard. Arrivé au sol, il contourna le pied de la falaise et remonta vers sa propre caverne sans jeter un coup d'œil autour de lui. Oreille pendante et moi, nous échangeâmes un regard de compréhension. Immédiatement et avec d'infinies précautions, nous commençâmes à gravir la falaise jusqu'à son point le plus élevé. De là, nous jetâmes un coup d'œil en arrière. Le village était abandonné. Seul l'œil rouge restait dans sa caverne. La horde avait disparu dans les profondeurs de la forêt. Nous nous retournâmes et nous mîmes à courir, nous élançant à travers les espaces libres, glissant le long des pentes au mépris de serpents qui pouvaient se cacher dans l'herbe, et gagnâmes enfin les bois. Nous grimpâmes dans les arbres et nous balançant de branche en branche, nous continuâmes notre fuite aérienne jusqu'à ce que des kilomètres nous séparassent des cavernes. Et alors, mais pas avant, nous nous arrêtâmes dans la fourche formée par deux grosses branches où nous nous sentions en sécurité. Nous nous regardâmes et éclatâmes de rire. Bras et jambes enlacés, nous nous serrions l'un contre l'autre, nos yeux ruisselants de larmes, ayant mal aux côtes à force de rire. Chapitre 10. Je deviens pêcheur. Lorsque nous eûmes ri tout notre sou, Oreille pendante et moi, nous poursuivîmes notre fuite. Un léger détour nous amena à la mare aux myrtilles où nous déjeunâmes. Voilà des années, dans ce même marécage, j'avais fait mes premières excursions en ce monde, guidé par ma mère. Depuis, je ne l'avais revue que rarement. D'ordinaire, lorsqu'elle rendait visite aux gens des cavernes, je gambadais dans la forêt. À une ou deux reprises, j'avais aperçu le jaseur sur la rive, et de l'entrée de ma caverne, j'avais pris plaisir à lui faire des grimaces pour exciter sa colère. En dehors de ces aménités, je ne me souciais pas de ma famille. Mes parents ne m'intéressaient plus, et d'ailleurs, je me débrouillais fort bien tout seul. Après nous être en guise de dessert gavés de myrtilles et de cailles couvées, Oreille pendante et moi nous dirigeâmes avec prudence dans le bois avoisinant le fleuve. Là se trouvait le vieil arbre familial où j'avais été expulsé par le jaseur. Cet arbre était encore occupé. La famille s'était accrue. En effet, un bébé s'agrippait à ma mère, et une fillette, perchée sur les branches inférieures, nous regardait avec curiosité. De toute évidence, c'était ma sœur, ou plutôt ma demi-sœur. Ma mère me reconnut instantanément, mais lorsqu'elle me vit sur le point de grimper à l'arbre, elle me fit signe de m'éloigner. Oreille pendante, beaucoup plus méfiant que moi, battait déjà en retraite, et il me fut impossible de le persuader de revenir. Un peu plus tard, dans la journée, ma sœur descendit sur le sol, et pendant tout l'après-midi, nous prîmes nos ébats dans les arbres voisins. Ce sport se termina plutôt mal. Le fait qu'elle fût ma sœur ne l'empêcha point de me traiter de façon abominable. Elle avait hérité toute la méchanceté du jaseur. Brusquement, dans sa colère, elle se jeta sur moi, me griffa, m'arracha les cheveux et planta ses petites dents aiguës dans mon bras. Perdant patience, je lui administrai la correction la plus formidable qu'elle eût certes reçue jusque-là. Et vous l'aviez entendu crier et brailler. Le jaseur, qui s'était éloigné toute la journée et revenait à ce moment, se précipita en même temps que ma mère. Mais il arriva le premier. Oreille pendante et moi n'attendîmes pas notre reste. Prenant nos jambes à notre cou, nous détalâmes à travers les arbres, poursuivis par le jaseur. Cette chasse terminée, quand Oreille pendante et moi eûmes fini de rire de l'aventure, nous nous rendîmes compte que le crépuscule tombait. Bientôt ce fut la nuit avec ses frayeurs, et il ne pouvait être question de regagner nos cavernes à cause d'œil rouge. Nous nous réfugiâmes sur un arbre isolé et passâmes la nuit dans une enfouchure assez élevée. Quelle nuit horrible! Pendant les premières heures, il plut à torrents, puis ce fut le froid et le vent glacé. Trempés jusqu'aux os, grelottant et claquant des dents, nous demeurâmes blottis dans les bras l'un de l'autre. Nous regrettions la douillette petite caverne qui se réchauffait si vite à la tiédeur de nos corps. Le matin, nous trouva bien déprimés, mais pleins de résolution. Nous ne subirions pas une autre nuit semblable. Nous souvenant des abris de nos parents, nous songeâmes à en fabriquer un pour nous-mêmes. Nous construisîmes la carcasse d'un nid grossier et sur des branches au-dessus de nos têtes, nous posâmes les perches destinées à soutenir le toit. Bientôt le soleil se montra, et sous sa bienfaisante chaleur, nous oubliâmes nos récentes misères, et nous partîmes en quête de nourriture. Ensuite, pour vous montrer la versatilité de nos caractères à cette époque, nous ne songeâmes plus qu'à jouer. Cette construction arboréenne dut nous prendre pour le moins un mois de travail intermittent, et lorsqu'elle fut terminée, nous nous en servîmes même plus. Mais j'anticipe sur mon récit. Le lendemain de notre départ des cavernes, Oreille pendante et moi, nous nous donnâmes la chasse à travers les arbres jusqu'au fleuve. Nous débouchâmes à un endroit où l'eau du marais aux Martilles formait un vaste bourbier sur la rive du cours d'eau. Dans cette eau croupissante s'amassaient des troncs d'arbres, dont certains, par suite des heurts et des frottements au moment des crues, et pour avoir séjourné d'interminables étés sur les bancs de sable, se trouvaient desséchés et entièrement dépouillés de leurs branches. Ils surnageaient, se ballottaient au gré des vents, ou se retournaient sous le poids de notre corps. Ça et là, entre les souches, des bandes de vers ronds s'ébattaient dans les trous d'eau. Oreille pendante et moi, nous devînmes aussitôt pêcheurs. Allongés sur le ventre immobile, nous guettions l'approche des petits poissons et au moment opportun, nous plongions rapidement la main dans l'eau pour en prendre. Nous les dévorions sur place, encore tout humides et frétillants, sans nous apercevoir du manque de sel. Cet endroit devint notre terrain de jeu favori. Chaque jour, nous y passions plusieurs heures, capturant du poisson et nous amusant sur les troncs d'arbres. Et c'est là que nous prîmes nos premières leçons de navigation. Un jour, qu'Oreille pendante dormait étendue sur une souche, une légère brise emporta doucement l'arbre à la dérive. Et quand je me rendis compte de la situation périlleuse de mon compagnon, il était déjà trop loin pour qu'il pût sauter. Tout d'abord, cet incident me parut comique, mais je fus saisi aussitôt d'une de ces terreurs subites si communes à cet âge de perpétuelle insécurité, et je fus épouvanté de la propre solitude où j'allais me trouver. Prenant conscience du danger que courait Oreille pendante sur cet élément hostile, je l'appelai de toutes mes forces. Il s'éveilla, effrayé, s'agita maladroitement et le tronc d'arbre se retourna, précipitant mon compagnon sous l'eau. Trois fois il essayait de remonter à la surface, mais trois fois il disparut sous l'énorme souche. Enfin il réussit à s'y cramponner, mais il bégayait de peur. Il ne pouvait rien faire, ni moi non plus. Nous ignorions tout de la natation. Nous étions déjà trop éloignés des formes les plus inférieures de la vie pour nager d'instinct, et pas encore assez avancés dans notre évolution pour envisager la nage comme une difficulté à vaincre. Inconsolable, j'errais le long de la rive, me tenant aussi près que je le pouvais de l'involontaire voyageur. Il gémissait et criait si fort qu'il aurait pu ameuter tous les carnassiers des alentours. Les heures s'écoulaient. Le soleil monta au-dessus de nos têtes et commença sa descente à l'ouest. Le vent léger se calma, laissant oreille pendante sur son tronc d'arbre, flottant, à 100 mètres environ de la rive. Alors, je ne sais comment, oreille pendante fit une grande découverte. Il se mit à ramer avec ses mains. Tout d'abord, ses progrès furent lents et livrés au hasard. Bientôt, il se dirigea mieux et peu à peu s'approcha du rivage. Je n'y comprenais rien. Je m'assis pour l'attendre et observais ses mouvements jusqu'à ce qu'il eût regagné la berge. Il venait d'acquérir une expérience à laquelle je n'avais point participé. Plus tard, au cours de l'après-midi, il s'élança sans hésiter sur son tronc d'arbre. Avant la fin de la journée, il me persuada de le suivre, et moi aussi j'appris à pagayer. Les jours suivants, il nous fut impossible de nous arracher à ce coin de la rive. Notre nouveau jeu nous absorbait à tel point que nous en oublions le manger. La nuit, nous nichions dans un arbre voisin. L'existence d'œil rouge était entièrement effacée de notre souvenir. Nous essayions continuellement de chevaucher de nouveaux troncs, et bientôt l'occasion nous fut donnée de constater que plus l'arbre était petit, plus il avançait vite sur l'eau, mais que, d'autre part, il se renversait plus facilement et nous faisait faire des plongeons. Un jour que nous ramions sur nos petits troncs d'arbre, nos deux esquifs s'accrochèrent accidentellement et nous fîmes cette nouvelle constatation. Lorsque chacun de nous posait un pied et une main sur l'arbre de l'autre, les troncs acquéraient un équilibre relativement stable et ne se retournaient plus. Étendus l'un à côté de l'autre dans cette position, nous pagayions avec la main et le pied disponibles. En fin de compte, nous nous aperçûmes que, grâce à cette tactique, nous pouvions nous servir de troncs plus étroits et ainsi accroître notre vitesse. Là s'arrêtèrent nos découvertes. Nous avions inventé le plus primitif des radeaux et nous ne possédions pas assez d'intelligence pour nous en rendre compte. L'idée ne nous vint même pas d'attacher ces troncs l'un à l'autre au moyen de lianes solides ou de racines fibreuses. Nous nous contentions de retenir les arbres l'un après l'autre à l'aide de nos pieds et de nos mains. Lorsque tomba notre engouement pour la navigation, nous retournâmes dans la forêt pour coucher dans le nid que nous avions construit. À cette époque, nous liâmes connaissance avec la rapide. Je la vis pour la première fois alors qu'elle cueillait des glands sur les branches d'un énorme chêne voisin de notre arbre. Elle me parut d'une timidité extrême. Dès qu'elle m'aperçut, elle dégringola de son arbre et s'enfuit à toutes jambes. Les jours suivants, nous l'entrevîmes à divers intervalles, et bientôt, dans nos trajets entre notre nid et la rivière, nous nous mîmes à la chercher. Un jour, elle ne se sauva pas à notre approche. Au contraire, elle nous attendit avec de petits cris de bienvenue. Cependant, il nous fut difficile de parvenir jusqu'à elle. Quand elle nous vit trop près de sa personne, elle fila d'un trait, et de loin, elle réitéra ses piaillements. Ce manège dura plusieurs jours. Il fallut longtemps pour l'apprivoiser, mais finalement nous y réussîmes, et elle vint même se mêler à nos jeux. Dès l'abord, elle me plut. Je la trouvais séduisante et d'un caractère très doux. Je n'avais jamais vu un regard aussi tendre que le sien. En cela, elle différait totalement des femmes de la horde, véritables viragos. Elle ne poussait jamais des cris rauques ou aigus, et d'instinct fuyait un obstacle plutôt que d'essayer de le vaincre. La douceur à laquelle je fais allusion semblait émaner de tout son être, de son corps souple et de son gracieux visage. Ses yeux, plus grands que ceux de la plupart des autres femmes, n'étaient pas aussi enfoncés et s'ornaient de cils plus longs et plus réguliers. Son nez, moins gros et moins épaté, offrait une arête bien dessinée et les narines s'ouvraient vers le bas. Ses incisives n'étaient point grandes, sa lèvre supérieure n'était pas longue et tombante, et sa mâchoire inférieure ne faisait point saillie. Sauf sur les bras, les jambes et les épaules, elle n'était pas très velue, et si ses hanches étaient minces, en revanche, ses mollets n'étaient point tortus et noueux. Jetant un regard en arrière à travers mes rêves du XXe siècle, je me suis souvent demandé si cette jeune fille n'était pas apparentée au peuple du feu. Son père et sa mère provenaient sans doute de cette souche plus noble. Ces faits étaient plutôt rares, mais pouvaient très bien se produire. N'avais-je point été témoin de phénomènes semblables au sein de la horde ? Certains membres des habitants des cavernes reniaient leur tribu pour aller vivre parmi le peuple des arbres. Mais je m'écarte de mon sujet. La rapide différait totalement des femmes de la horde et dès notre première rencontre, sa gentillesse et sa grâce m'avaient attiré. Elle n'était jamais brusque et ne se battait pas, mais elle se sauvait toujours en courant, d'où le surnom que je lui donne. Elle grimpait aux arbres mieux qu'Oreille Pendante ou moi-même. Quand on jouait à la course, nous n'arrivions à la capturer que par hasard, tandis qu'elle nous attrapait quand elle voulait. Remarquablement vive dans tous ses mouvements, elle possédait un don d'apprécier les distances qui n'avait d'égal que son audace. Timide en toute autre chose, elle ne craignait rien quand il s'agissait de grimper et de courir dans les arbres. Oreille Pendante et moi paraissions gauche et poltron à côté d'elle. Elle était orpheline. Jamais nous ne la vîmes en compagnie d'une autre personne, et il était bien difficile de dire depuis combien de temps elle vivait seule au monde. De bonne heure, dans son enfance, sans protection, elle avait dû apprendre que la sécurité ne risait que dans la suite. En outre, elle était prudente et réservée. Oreille Pendante et moi, nous nous fîmes un jeu d'essayer de découvrir son gîte. Elle devait certainement nicher quelque part dans un arbre du voisinage. Mais nous eûmes beau la suivre plusieurs fois à la piste, jamais nous ne parvînmes à la découvrir. Elle consentait à partager nos jeux durant le jour, mais gardait jalousement le secret de sa demeure.